Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région.
C'est parti.
Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Bonsoir à tous et à toutes, nos auditeurs, toutes nos auditrices, pour une nouvelle émission. Ce soir, nous recevons donc, à ma droite, j'ai Laure Brett, avocate.
Bonsoir.
Je veux dire bonsoir, voilà. À ma gauche, j'ai François Deveau, qui va nous parler de la parole libérée, puisque vous êtes le fondateur, je pense, de l'association, ou je me trompe peut-être d'ailleurs.
Oui, bonsoir, co-fondateur. Ouais.
Co-fondateur. Oui. Donc président, toujours, de l'association.
Oui, président, oui.
Alors, la parole libérée, c'est une association dont on a beaucoup entendu parler dans les médias ces derniers mois, puisque c'est une association qui est née suite à regroupement, donc il y a la recherche en fait, dans le but de rechercher des victimes. On peut parler de victimes,
oui.
D'abus sexuels par des membres du clergé et dans le diocèse de Lyon. Voilà, pour résumer.
Voilà.
Ça, c'est vraiment le gros résumé.
Voilà.
Il y a donc un site internet qui s'appelle La Parole Libérée, sur lequel on peut consulter d'ailleurs des témoignages, etc., de personnes. Alors, moi, justement, François Deveau, je voudrais savoir. Qu'est-ce qui vous a incité, à partir de quel moment vous avez songé à créer l'association, donc La Parole Libérée? Ça remonte à quand, quel moment, quel a été votre...
Alors ouais, il faut que je refasse un peu le fil de l'histoire, mais on a décidé de créer cette association courant décembre 2015. Et on a pris la décision quand on s'est retrouvé avec Bertrand et Alexandre et d'autres membres qui sont dans l'ombre de l'association. Mais en fait, cette intention est venue quand on a appris chacun que en fait le père Prena avait été replacé au contact d'enfants. Et c'est ça qui nous a incité à nous engager dans ce combat. Il a pris la forme d'une association, c'était une décision commune, mais la motivation dans le combat a toujours été celle-ci.
D'accord.
Au-delà du projet associatif. Quoi.
Donc vous avez appris que le père Prena, qui est le principal responsable donc, des actes dont nous avons évoqué au début de l'émission, vous avez appris qu'il était non seulement toujours en poste, en fait, mais qu'il avait... Enfin bon, il était en poste, il était toujours en contact avec des enfants, avec de très jeunes enfants ou avec des adolescents, sachant que vous connaissiez un peu les antécédents, on peut dire même beaucoup, malheureusement, du père Prena. Vous avez été... comment vous avez su, déjà, que le père Prena était toujours en poste? Voilà, pour commencer.
Comment j'ai su? J'ai su par l'enquêteur judiciaire, en fait. J'ai l'enquêteur judiciaire qui a fait l'enquête préliminaire sur Prena, demandée par le procureur, monsieur Simamonti. Et en fait, voilà... Il faut savoir que moi, ça s'est passé quand j'avais 10-11 ans. J'ai pas eu conscience que j'étais victime. Et je l'ai dit presque par mégarde à mes parents et qui ont tout de suite pris la mesure des choses. Moi, j'ai jamais vraiment ressenti le statut de victime par rapport à Prena. Mes parents ont fait tout de suite ce qu'il fallait. Donc, j'ai une souffrance relative par rapport à ça. Et mes parents m'ont sorti des scouts et ils sont partis dans un combat avec le clergé dont j'étais pas du tout au courant. J'étais trop jeune pour ça et mes parents ont sans doute voulu me protéger de ça. Et au bout de 10 mois, ils ont fait partir Prena. Et tout le monde a vu partir Prena. Prena est parti, ça a fait un scandale dans le quartier du 5e arrondissement de Lyon. Et puis, affaire réglée, il avait été retiré par le cardinal de Courtrai, à qui mes parents avaient fini par faire un courrier recommandé, le sommant de retirer Prena instamment de tout contact d'enfant de manière définitive. Et Prena a été retiré, il est parti aux petites sœurs des pauvres. Et puis l'affaire est réglée. Voilà, moi j'ai jamais plus pensé que ça. Jusqu'au jour où, en octobre 2015, j'ai cet enquêteur judiciaire qui m'appelle et qui me dit « voilà, je veux vous voir ». Au sujet du père Prena, voilà, relatif à des agressions sexuelles sur mineurs, et à qui j'ai dit que voilà, ça m'intéressait assez peu d'aller témoigner contre un vieil homme qui était sans doute probablement décédé et que j'imaginais au fin fond d'une bibliothèque à archiver des documents poussiéreux. Parce que de Courtrai avait pris les mesures. Et puis c'est là que j'ai pris connaissance en fait de tous les documents, les courriers que ma mère avait envoyés notamment au diocèse, qui m'avait toujours dit, j'ai des courriers, un jour, il faudra que tu les lises. Je lui ai dit, écoute, tes courriers, j'en ai pas grand-chose à faire, le problème a été réglé depuis, cet homme n'est plus en contact d'enfant. Et c'est là que j'ai vu tout ce qui avait été écrit. Et donc cet enquêteur insiste beaucoup pour me voir, et je finis par accepter. J'ai vraiment pas beaucoup de temps à consacrer pour ce genre de choses, mais vu son insistance, je finis par accepter. Et le soir, par hasard, vraiment, en allant me coucher, je passe devant l'ordinateur, je dis, ah tiens, je vais regarder Préna. Et je tape sur Google Préna, et là je vois que Préna est doyen à Rouen, responsable de 6 paroisses, et qui distribue des vierges et des petits-enfants, etc. Et quand je vois ça, voilà, mon sang n'a fait qu'un tour, parce que, voilà, au vu des courriers qui avaient été envoyés et le risque potentiel de replacer un homme comme ça au contact d'enfants, j'ai trouvé ça complètement inconscient. Et puis voilà, j'ai compris qu'il y avait 4 plaintes avant moi. S'il y avait 4 plaintes avant moi, ça voulait dire que cet homme-là avait eu beaucoup de victimes, avait fait beaucoup de victimes. Et voilà, cet engagement, plus que contre Préna, alors, ce qui me concerne hein, en termes de souffrance personnelle, parce qu'entre-temps, j'ai entendu beaucoup de témoignages sur des gens qui ont vraiment leur vie brisée par rapport à ça, parce qu'ils ont, ils ont en plus vécu le déni de leur famille, ce que moi, je n'ai pas vécu. Voilà. Mais l'action de mes parents a déclenché quand même le départ de Préna. Donc je suis peut-être un petit peu placé différemment par rapport à la majeure partie des victimes. Donc voilà, tout ça est parti comme ça.
Le dépôt de plainte, les dépôts de plainte que vous évoquez, donc 4 dépôts de plainte, c'est ça, étaient contre le père Préna, je veux dire. C'était le père Préna qui était...
Ouais, oui, il y avait eu des dépôts de plainte contre le père Préna qui étaient vraisemblablement prescrits. Et quand l'enquêteur me reçoit, il me demande ma déposition, et puis à la fin, il vous demande si vous déposez plainte. Je dis, bah oui, je dépose plainte, au vu de ce qui a été déposé vraisemblablement avant moi. Et tout de suite, à l'enquêteur, je lui dis, par contre, la vraie question pour moi, c'est depuis quand le cardinal Barbarin est au courant des faits de pédophilie.
Alors,
c'est là que j'ai déposé plainte.
Il faudrait qu'on précise aussi à quelle époque sont survenus les faits. Ça concerne une époque assez grande, finalement, plusieurs années d'activité du père Préna au sein donc d'un groupe de scouts, c'est ça ? Groupe Saint-Luc, je crois,
voilà.
Si je ne m'abuse.
Groupe Saint-Luc à Sainte-Foy, il a officié là-bas, je crois, de 72 à 91. Les premières révélations ont été en 82, je crois, peut-être même avant. Et bon, aujourd'hui, on sait que, en fait, Préna se savait d'attirance pédophile avant même d'être ordonné prêtre.
D'accord.
C'est-à-dire, j'étais pas encore né, j'étais pas encore sur cette terre que cet homme était déjà pédophile.
D'accord. Alors, donc, je résume. Donc, les événements que nous évoquons remontent donc sur une longue période, les années 70-80 jusqu'au début des années 90. Les dépôts de plainte, eux, ont été retoqués, en fait, pour prescription, à cause de la prescription.
Alors, il y a eu, dans cette affaire, il y a eu plusieurs plaintes. Donc, en fait, c'est Maître,
c'est là que nous allons faire intervenir leur bret avocate.
Expliquera ça mieux que moi, mais il y a une date clé qui est la date des 38 ans. Et donc, il y avait des plaintes avant moi pour des hommes qui avaient plus de 38 ans. J'étais, je crois, le premier à avoir moins de 38 ans. Donc, ma plainte devenait recevable. Donc, le dossier commençait à être recevable sur un plan judiciaire.
D'accord.
Et suite à ça... le procureur a décidé d'instruire, un juge d'instruction a été nommé, et en effet, l'avocat de Préna, Maître Doyer, a voulu faire passer la prescription sur ces affaires de pédophilie pour ceux qui étaient considérables comme non prescrits, enfin de moins de 28 ans, ce qui a été refusé une première fois par le juge d'instruction, qui est passé en cour d'appel, qui a été refusé une deuxième fois en cour d'appel, et qui part maintenant en cassation, vraisemblablement, et avec l'objectif, je crois, d'après ce que dit Maître Doyer, d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui est un peu surprenant, pour un homme qui a avoué des faits de pédophilie, dont des faits de viol, cette détermination à vouloir fuir la justice, alors qu'il y a déjà eu deux décisions par rapport à ça, Sachant que, voilà, aujourd'hui, ni le cardinal Barbarin, ni le pape François s'est prononcé en disant voilà, cet homme doit impérativement se rendre devant la justice, cet homme qui est toujours prêtre, en l'occurrence.
D'accord. Alors, justement, la prescription sur des faits de ce type-là, qui sont des délits, évidemment, qu'on peut qualifier de crimes sexuels, je ne sais pas si le mot est fort, est-ce que vous employez ce terme dans le cadre de ce genre de délit ?
Alors, c'est une infraction sexuelle, ouais. Ça, c'est certain. Crime sexuel, ça va dépendre de la nature de l'atteinte, puisque un crime, juridiquement, c'est une infraction qui est punie de moins de 10 ans d'emprisonnement, qui s'oppose au délit, qui est puni de moins de 10 ans d'emprisonnement.
D'accord.
Voilà. Le tout étant regroupé sous le terme générique d'infraction. Pour faire quelque chose de très simple sur la prescription, c'est vrai que les infractions sexuelles, de manière générale, surtout sur les mineurs, bénéficient d'un régime un peu de faveur pour ce qui est de la prescription, puisque les délits se prescrivent par 3 ans, les crimes par 10. Pour ce qui est des infractions sexuelles, on a non seulement une prescription qui est allongée, mais qui en plus, pour les mineurs, commence à partir de la majorité de l'enfant. C'est pour ça que tout à l'heure vous évoquiez l'âge de 38 ans, c'est-à-dire qu'on a une prescription de 20 ans qui commence à 18 ans. Donc effectivement, les plaintes déposées pour les personnes qui avaient plus de 38 ans avaient un obstacle de fait qui était la prescription acquise.
Voilà. D'accord. Les décisions qui ont été rendues parmi toutes les affaires qui viennent d'être évoquées, vous paraissent-elles conformes donc à la législation ? Est-ce que l'appel, la cassation est justifiée, etc. Et la Cour européenne des droits de l'homme, etc.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question qui se pose au point de vue juridique, parce qu'il y a des lois qui ont changé ou qui sont venues apporter des réformes sur la prescription. Donc c'est toute la question de savoir les lois de procédure à partir de quand elles s'appliquent, la question de la loi pénale qui est plus douce, qui doit normalement de toute façon profiter à la personne qui est poursuivie. Il y a un vrai débat juridique qui sera tranché par les juridictions, mais qui risque effectivement peut-être de vous conduire très loin dans la procédure judiciaire.
Donc, à l'époque des faits, c'était donc Mgr de Courtrai, vous en avez parlé, qui était donc le prédécesseur de Mgr Barbarin, hein, qui était en place. Et il était au courant. Donc, il était au courant, puisque déjà, rien que vos parents étaient intervenus. Il y a donc des courriers qui ont dû être archivés, conservés, au diocèse de Lyon, dans lesquels les faits reprochés à Prénat ont été clairement énoncés, écrits, etc. Mgr de Courtrai, donc, est décédé. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas eu d'intérim. Je crois que... Je ne sais pas comment ça s'est passé après de Courtrai. Si Barbarin est arrivé tout de suite, je ne sais plus.
Il y a eu deux cardinaux entre-temps.
Il y a eu quand même deux cardinaux entre-temps.
Ils
n'ont pas duré, si.
Ouais, cancer. Il y a une malédiction lyonnaise sur le diocèse. Mais...
Bon.
En fait, moi, les faits sont arrivés en mai 90. Prénat est parti en février 91, et il a été replacé 6 mois après. Et de Courtrai est décédé en 93. Donc de Courtrai a replacé sciemment un homme qui savait pédophile, pour lequel il avait eu plusieurs fois, il a été informé que voilà, il y avait eu des...
D'accord. Donc ça nous ramène donc à la fin de l'année dernière, il y a un an, lorsque vous créez la parole libérée. Vous la créez aussi parce que vous souhaitez quand même qu'il y ait une suite judiciaire, malgré les prescriptions, malgré toutes les aventures judiciaires que vous aviez déjà vécues avec les dépôts de plaintes, par rapport par exemple à Mgr Barbarin ou à la Congrégation de la foi. Je crois que vous avez porté plainte pour d'autres motifs, évidemment, des motifs de non-assistance en danger, à personne en danger... le dépôt de plainte, ça concernait non-assistance à personne en danger, non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, je crois, c'était ça. Parce que Barbarin, donc pourquoi Barbarin, justement ? Pourquoi vouloir porter plainte contre lui ? Certes, vous vouliez qu'il y ait une suite judiciaire pour ne pas laisser les choses comme ça impunies, mais...
L'engagement, l'objectif, en tout cas je parle pour moi, hein, après chaque cas est différent et la souffrance est telle dans ces situations que c'est difficile de parler pour quelqu'un d'autre. Pour moi, la motivation, c'est pas la condamnation, ni celle de Prénat, ni celle de Barbarin. Je crois que les victimes vivent avec ça et que quand ça arrive dans votre vie, bah, vous faites le maximum pour vivre avec, du mieux que vous pouvez. Notre engagement là-dedans, c'était de faire prendre conscience à une société et des fidèles parfois un peu crédules sur voilà, la gravité de ces situations-là, et qu'il y a un déni, c'est-à-dire qu'il y a même des parents qui ont nié la, la souffrance de leurs propres enfants, à tel point que voilà, des hommes de plus de 50 ans n'ont jamais pu avouer à leurs propres parents, à leurs propres enfants, ce qu'ils ont vécu. Donc vous imaginez la construction personnelle de quelqu'un, l'équilibre sexuel que cette personne peut avoir, et tout ce que tout ce qui en découle personnellement. Donc voilà, il y a à notre sens une vraie prise de conscience de la société à avoir par rapport à ça, et que certes un combat judiciaire est une des voies possibles, mais c'est pas le seul de la prise de conscience. Et on a essayé de créer un dialogue. Alexandre a commencé à essayer de créer un dialogue dès 2014. Alexandre étant cofondateur aussi de l'association et à l'initiative de la démarche judiciaire, mais avant de déposer plainte, je crois en juin 2015, il a pris contact avec Mgr Barbarin dès 2014, et au bout d'un moment, au vu de l'attentisme et de son incapacité à réagir, il a dû passer par une voie judiciaire, et ça lui a coûté personnellement beaucoup, parce qu'il s'est retrouvé en confrontation avec sa foi, qu'il a encore entière, et son bon sens, et voilà, quand on constate ça, on se dit qu'on peut pas savoir ces choses-là et ne rien faire, sinon on devient complice et on participe à ce déni. Donc tout notre engagement est là. On aurait aimé avoir une prise de conscience. D'ailleurs, moi, quand j'ai appris que quand cet enquêteur judiciaire m'a contacté pour prendre rendez-vous, la première chose que j'ai faite, c'est téléphoner au cardinal Barbarin, qui m'a rappelé 2-3 heures après, et à qui j'ai proposé une démarche commune, un athée et un cardinal, contre ces faits de pédophilie, pour une prise de conscience, pensant que voilà, ça pouvait être une démarche honorable de société, en disant « non, on s'insurge contre ça, il y a un dysfonctionnement qui est grave ». Donc voilà, ça touche un peu tout ça. Ça touche également ces lois de prescription sur agression sexuelle. On voit aujourd'hui que dans notre affaire, eh ben, sur 60, presque 70 victimes, pour seules celles qui ont accepté de se révéler comme telles, bah finalement, il va y en avoir aujourd'hui. Je crois qu'on n'est plus que 6 dans le dossier Prena. Donc ça pose bien question par rapport à cette crise de la quarantaine, par rapport à la maturité d'une personne. On comprend que ben finalement, avant ce temps de 40 ans, on passe son temps à essayer d'oublier son passé et se tourner vers l'avenir, et que après cet âge de maturité, on essaye d'assumer ce qu'on est et d'accepter ce qu'on est. Et donc de le dire. Voilà. Donc c'est pour ça que dans ces affaires-là, on se retrouve souvent avec des silences comme ça, très longs. Donc ça veut dire qu'il faut revoir, je pense, ces délais de prescription.
Ça peut être aussi une façon de décompenser un petit peu, justement, l'acte judiciaire, l'acte de judiciariser les choses, et de qu'il y ait une décision de justice qui soit rendue. C'est une façon de...
La justice, en fait, elle est là pour crédibiliser notre action. Mmh. Et que quand ça passe devant un procureur ou un juge d'instruction... Voilà, ce qui est dit est acté, et ça permet d'entendre le fond du problème. Et qu'avant ça, on est dans un combat médiatique où finalement la morale, chacun perçoit les choses un peu de son côté, et que quand la justice est passée par là, même si ça se solde par un non-lieu, parce qu'il y a prescription, les choses sont actées. Et on peut faire un diagnostic précis de la situation et de sa dangerosité, et d'adapter après, à la fois dans le diocèse de Lyon, qui... nous a ressorti, suite à cette affaire, les mêmes sermons qu'ils ont fait en 2001 suite à l'affaire Piquant, cet évêque qui a été condamné, le premier évêque de France qui a été condamné à 3 mois de sursis pour des faits de non-dénonciation d'un de ses prêtres qui avait commis des actes de pédophilie. Donc voilà, je sais plus où j'en étais, mais c'est par là, quoi, à peu près.
Sinon, au niveau de l'intimité de la personne, on ne pouvait pas parler au nom de tous les membres de la parole libérée, mais est-ce que c'est quand même pas justement une libération aussi, peut-être un acte, une décision de justice ? Et justement, on reviendra sur celle qui a été rendue par le procureur récemment. Est-ce que ça peut être, sur le plan personnel, aussi un moyen de, justement, d'une libération un petit peu, libérer une vanne
Chaque cas est vraiment très très personnel, ouais, et indépendant, et ça dépend beaucoup de la souffrance. Et la souffrance, elle n'est pas seulement issue des exactions subies par l'enfant, mais aussi de tout le déni auquel il a été confronté, notamment par ses parents, ses proches, qui lui ont dit « non, tu dis pas ça », etc. Là, il y a une vraie souffrance qui se crée du fait de codes de société qui sont un peu aberrants.
D'accord.
Mais l'engagement... non, il y a... Très franchement, pour moi, il n'y a aucune réparation dans ce combat judiciaire, et je m'en serais bien passé. Et c'est vraiment l'action de tous ces gens qui sont avec nous dans cette action de la parole libérée. C'est pas pour être reconnu comme étant victime, c'est pas pour qu'on parle de nous, etc. C'est pour que demain, voilà, la notion d'amour de son prochain, vous voyez, elle touche pas que les gens de foi, elle touche aussi le commun des mortels. C'est peut-être simplement des valeurs humaines et de dire notre société a peut-être un problème avec des choses aussi graves que ça. Et on a vu dans l'histoire que, ben, quand on a oublié de réfléchir, il s'est passé des graves traumatismes. Et je pense que, au vu de l'importance du phénomène de la pédophilie au sein de l'Église mondiale, c'est-à-dire qu'on a révélé, on nous expliquait il n'y a encore pas très longtemps que la pédophilie en France, il n'y en avait pas, il n'y en aurait jamais, parce qu'on était un pays beaucoup plus intelligent que les autres, etc. Bon, on comprend aujourd'hui que Prena, c'est un cas sérieux. On voit après 3-4 mois de combat d'une armée de bras cassés que finalement il y a 7 affaires qui sortent dans le diocèse de Lyon, et qu'on se rend compte que finalement Anna Trela est concernée, que des grands de l'Église de France sont concernés, et que des affaires de pédophilie, il y en a dans à peu près tous les diocèses, et que quand on regarde un peu plus haut, que dans tous les pays du monde dans lesquels l'Église est implantée, il y a eu depuis 2000 des affaires de pédophilie graves.
Oui.
Toute l'Amérique latine, toute l'Europe, les États-Unis, oui, oui. Le Canada, tout.
En Europe, l'affaire la plus retentissante, je dirais, ça a été l'énorme scandale de l'Église catholique en Irlande, puisque de nombreuses institutions, ça concerne des centaines de personnes qui ont été abusées sexuellement dans le cadre d'institutions catholiques. Ça concerne des personnes, d'ailleurs des jeunes enfants des deux sexes, garçons ou filles. Ce qui a même provoqué un véritable, comment dire, dans un pays qui est très catholique, où le catholicisme est très implanté, culturellement, socialement, ça a créé une véritable lame de fond et une défiance vis-à-vis de l'institution catholique qui n'existait pas trop jusque-là. Bon, il y avait ceux qui étaient opposés traditionnellement, politiquement, à la religion, à l'importance de la religion, à la place de la religion en Irlande. Mais là, même les gens convaincus, devant cette avalanche d'affaires, parce qu'il s'agit d'une avalanche d'affaires, ça remonte à 8 ans, l'Église catholique a beaucoup perdu de son influence, on va dire, même dans l'intimité des gens, tout simplement.
C'est ce qu'on vit aujourd'hui en France, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on a quand même Isabelle de Golemin, qui est rédactrice chef adjointe,
oui, on en parlera,
de,
oui,
de la Croix.
C'est une illustration bouquin. Voilà. Mm.
Et on l'a ressenti, on l'a vécu. Ouais. C'est-à-dire qu'on pensait que la prise de conscience des fidèles allait être ce qu'elle allait être de plus difficile. Et en fait, c'est une des seules choses qu'on a obtenues, qui est quand même immense. Mm. Mais on pensait que la prise de conscience viendrait bien plus facilement de l'institution que de... Voilà, on a quand même un pape qui prône une tolérance zéro.
Ouais.
Bon, en l'occurrence, il a Georges Pell, qui est aujourd'hui numéro 3 du Vatican, qui est poursuivi pour des affaires de non-dénonciation et de pédophilie en Australie. On a vu ce film Spotlight, Cardinal Lowe qui est déplacé, qui est au Vatican aussi. Voilà, donc y a un moment, le message est loin d'être clair et plus que décevant. Et les fidèles de cette Église commencent à être vraiment déçus de cette attitude. Quand on voit un Monseigneur Lalanne, monsieur pédophile de l'Église de France, qui a été nommé, suite à cette affaire Pican en 2001, en responsabilité de la pédophilie dans l'Église de France, qui est capable de dire devant RCF que la pédophilie n'est pas considérable comme un péché, on se dit qu'on va avoir du mal à y arriver.
Ouais.
Qu'est-ce qui peut bien se passer dans leur cerveau, ouais, pour sortir des énormités pareilles, quoi.
En ce qui concerne, pour revenir à notre affaire, le père Prena est la seule personne qui était concernée dans votre cas, par exemple, dans le cas de la parole libérée, des victimes, des personnes qui ont été abusées sexuellement. Seul le père Prena a été concerné, ou d'autres personnes ont subi dans le même cadre du scoutisme à Saint-Luc, par exemple, des abus sexuels venant d'autres personnes, par exemple, d'autres membres du clergé.
Alors, bon, nous, on parle de ce qu'on connaît.
Oui,
donc,
oui.
On connaît le père, oui, Prena. Oui. Après,
c'est bien ce que je veux dire. Par rapport à vous, il y a, ouais, le père Prena qui a été votre prédateur.
Oui, j'ose dire. Voilà. Après, on a eu forcément beaucoup de contacts. Il y a eu une telle médiatisation de cette affaire et les médias nous ont tellement soutenus dans ce combat-là et l'ont tellement partagé que on a eu en effet pas mal de révélations et de gens qui nous ont contactés. Et c'est comme ça que sont sorties ces affaires de gérant tête Saluno, d'Espéron, de Hooper, etc. On a été contactés par des victimes. Et on a deux choses à leur proposer, c'est de faire un courrier au procureur. Mmh. Voilà, après, c'est la responsabilité de la justice française et du procureur de la République de mener une enquête ou pas, mais ce n'est plus la responsabilité de la victime. Et puis la deuxième chose, c'est d'informer, c'est qu'il faut qu'il y ait une information qui passe, il faut que ça percute, parce que ils sont loin à la détente quand même. Donc le meilleur moyen qu'on ait trouvé, c'est la médiatisation, et c'est créer un mouvement populaire, y compris au sein de cette institution. Ça n'a rien à voir avec la foi, hein. C'est vraiment contre ces process de silence qui sont cancérigènes, quoi, qui sont affreux.
Alors, je me tourne à nouveau vers Laure Brette, vers notre avocate. Que dit la loi en ce qui concerne, donc, par exemple, beaucoup de gens entendent parler de majorité sexuelle. Il y a une majorité sexuelle qu'on estime fixée à 15 ans. Est-ce que c'est vrai, déjà ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différenciation au niveau des infractions qui se situe à l'âge de 15 ans. On a des infractions, un régime d'infraction qui est qualifié et caractérisé différemment si vous avez moins ou plus de 15 ans. À partir de 15 ans, on est effectivement plus ou moins traité, plus comme les adultes. Il y a toute la question du consentement. On considère, par contre, qu'avant 15 ans, quoi qu'il arrive, un enfant du coup ou un adolescent ne peut pas avoir de consentement à l'acte sexuel avec une personne qui a plus de 15 ans. Oui.
Alors c'est là où intervient aussi les notions, par exemple, parlons du viol, par exemple, tout simplement. Oui. Le viol, ce que vous avez subi, ce que les personnes qui ont eu affaire à Paprena peut être assimilé à du viol, mais aussi la plupart étaient des enfants de moins de 15 ans. On est d'accord. Donc, des adolescents, des enfants qui n'avaient pas 15 ans. Voilà.
Oui, les victimes n'avaient. Oui, la majeure partie.
La majeure partie était en dessous de ce seuil qui existait déjà à l'époque, je suppose, de majorité. Voilà. Alors, par exemple, qu'est-ce qui va différencier l'acte pédophile de l'acte d'un viol ? Est-ce que c'est cette limite d'âge, par exemple ? Est-ce qu'on peut dire qu'avant 15 ans, il s'agit de pédophilie ? Pédophilie, je rappelle le terme d'ailleurs, est tout à fait impropre, puisque étymologiquement, c'est bâtard comme nom, puisque ça veut dire celui qui aime les enfants. Et je ne pense pas que Prena, il aimait à sa façon les enfants, mais ce n'était pas pour leur apporter du bien-être, à mon avis, c'était dans un autre sens, quoi. Aimer les enfants, on peut aimer les enfants différemment, mais dans ce sens-là, c'est pas même un petit peu... le mot amour est un peu fort, je dirais. Est-ce qu'on peut parler donc de pédophilie jusqu'à un certain âge, il y a un seuil, et puis après, au niveau judiciaire, je parle. Et de là, on dit, c'est un viol, par exemple.
Alors, il faut faire très attention, parce que le terme pédophilie n'est pas du tout un terme juridique.
Voilà.
C'est un terme...
Et ça reste flou,
dans le vocabulaire général, voire au niveau des pathologies dans la psychiatrie ou des choses comme ça. Je pense que, pour reprendre ce que vous venez de dire, la pédophilie peut peut-être plus se définir dans les termes généraux comme le fait d'une attirance physique pour les enfants, effectivement peut-être pas de l'amour, et c'est là où il y a toute la distinction. Pour ce qui est du plan, au plan juridique, on peut très bien avoir un viol sur un enfant de moins de 15 ans ou des agressions sexuelles. Et c'est là toute la différence. Mais la distinction, là, par contre, et la même que ce soit pour les plus ou moins de 15 ans. Ce qui va différencier les deux types d'infractions, c'est l'acte de pénétration. Dans un viol, on a un acte de pénétration sur la personne de la victime. Et c'est tout ce qui va faire la distinction avec l'agression sexuelle.
C'est-à-dire que juridiquement, cette distinction existe entre, par exemple, quelqu'un qui aura subi une pénétration contre sa volonté ou quelqu'un qui aura été forcé de faire d'effectuer des attouchements, par exemple, contre sa volonté.
Exactement.
Et sans pénétration.
Exactement. Sans pénétration, on ne peut pas parler de viol, d'un point de vue juridique.
Et y compris pénétration, y compris buccale.
Il y a tout un débat sur la question, effectivement, de la sexualité au niveau buccal, parce que le fait d'être forcé, à faire une fellation, par exemple, n'est pas un viol.
N'est pas un viol.
Pardon, c'est l'inverse. Ah, super. Le fait de subir une fellation alors qu'on ne le veut pas n'est pas un viol.
Oui.
Être forcé à le faire, par contre, c'est un viol. C'est simple, entre guillemets. C'est à partir du moment où un corps étranger pénètre dans votre corps à vous, alors que vous ne l'avez pas voulu, c'est un viol. Si rien ne pénètre dans votre corps à vous, il ne peut pas y avoir de viol. Alors que la nature de l'acte, en l'occurrence, la fellation est la même. Sauf que vous n'avez pas le même rôle, et donc on ne rentre pas dans la même qualification juridique.
Alors, on va faire une petite pause musicale. on va écouter donc Christine and the Queens. Et on reviendra après, en deuxième partie de l'émission, donc sur ce qui s'est passé ensuite dans le dépôt de plainte contre Barbarin. Et aussi, vous avez déposé plainte aussi, je crois, contre la congrégation de la Sainte Foi, de la foi, je veux dire.
Oui, mais elle a été revue
d'office,
depuis. Parce ouais. que non, on l'a retirée parce qu'en fait, à l'étude du dossier,
d'accord.
on a vu qu'en fait, ils savaient... Fait ce qu'il fallait.
Ok, donc après la chanson, on reviendra sur la suite de l'affaire. Musique maestro.
Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Et bien voilà, nous voici de retour donc avec Laure Brett, avocate, François Devaux, de l'association La Parole Libérée. Alors, en première partie d'émission, on a abordé le sujet, donc on a commencé à évoquer un petit peu donc le cardinal Barbarin. Donc le cardinal Barbarin, en gros, ce que vous lui reprochez, c'est quand même d'avoir été au courant des affaires et d'avoir laissé le père Prénat dans ses rôles successifs de membres du clergé, dont la doyenneté, si j'ose dire, de la paroisse de Roanne, hein, d'après ce que j'ai compris, avec aussi des contacts toujours avec des enfants.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils ont été au courant, à commencer par De Courtrai, ensuite Billet, non, je crois que c'est Ballant, Billet, ouais. et maintenant Barbarin. Moi, je ne suis pas arrivé, l'enquêteur, il n'a pas trouvé mon nom dans le bottin, il y a quelqu'un qui lui a donné. Ouais. Quatre plaintes qui ont été déposées avant moi, je ne les connaissais pas, les mecs. Donc j'ai découvert Alexandre, qui est vraiment une belle découverte, mais en l'occurrence, je ne le connaissais pas. Donc pour trouver mon nom, il a forcément eu dans ses papiers un... sans doute le courrier de mes parents. Donc, ils avaient en possession, et Prénat, on voit que ce n'est pas un cas isolé, qu'il y en a beaucoup, et qu'on voit que c'est un mode de fonctionnement, en fait. Et donc, c'est ça qu'on reproche, c'est ce manque de bon sens. Mais déjà, à l'époque, Prénat, en tout cas pour moi, n'avait pas besoin d'être condamné. Moi, je n'avais pas besoin de faire condamner Prénat. J'en avais, en l'occurrence, pas grand-chose à faire de condamner Prénat. Ce qu'on demandait juste, c'est que Prénat soit pris en charge. Et prise en charge, on ne règle pas des problèmes de pédophilie avec des décennies de prison. Il a besoin d'un cadre, cet homme-là. Il a besoin d'avoir un cadre à la hauteur de sa pathologie. Et aujourd'hui, la justice est là pour appliquer des lois. Et les juges vont condamner, vont, je crois, parfois mettre en place des soins. Mais en l'occurrence, ça m'intéresse pas qu'il fasse des années de prison. Je veux juste qu'il ait un cadre. Et pour autant, il faut pas le lapider, cet homme-là. Enfin, je veux dire, il est malade. C'est comme vous prenez un autiste à comportement violent. Si vous lui mettez une baffe à chaque fois qu'il lève le bras, vous allez le rendre fou, quoi. Il y peut rien. C'est plus fort que lui. Donc, il faut lui mettre un cadre et en contact avec des gens avec qui il peut se mesurer. Mais vous prenez un alcoolique et vous le mettez dans un supermarché d'alcool, ou vous prenez un diabétique et vous le mettez dans un magasin de bonbons, faut pas avoir fait maths pour arriver à ces conclusions-là, quoi. Donc voilà, ce qu'on reproche en fait à cette institution, et aujourd'hui on constate que ça va jusqu'au pape, enfin en tout cas moi je le constate. Je parle en mon nom parce que tout le monde ne pense pas ça, mais je trouve qu'ils ne prennent pas les mesures à la hauteur de la gravité des faits, et que quand on prône une tolérance zéro, on l'applique. Donnez-moi les clés, vous allez voir, ça va être vite réglé. La pédophilie au sein de l'Église, on va trouver des solutions, quoi.
Le dépôt de plainte, donc, c'est l'association La Parole Libérée qui...
Non, l'association juridiquement ne peut pas.
D'accord.
Vous répondrez mieux que moi, mais... en fait, pour déposer plainte, il faut que l'association ait plus de 5 ans, et je crois plus de 5 ans avant les faits.
Oui, c'est ça. Il faut que l'association ait été constituée avant les faits qu'elle dénonce. Donc, votre association est probablement irrecevable à se constituer partie civile. Et vous vous constituez partie civile en votre nom propre, chacun des membres de l'association.
Voilà.
C'est ce qui s'est passé, donc.
Ouais. C'est-à-dire que... Tout le combat de l'association et de ces gens qui se regroupent avec nous, prescription, pas prescription, on s'en fout. Tout ce combat-là est un combat moral, en fait. Et de dire, on a des lois, mais nous, on n'est pas grand-chose, mais on a le droit de penser que ces lois, faut les revoir. Et puis, dans cette association, il y a des gens qui sont très croyants, très pratiquants, et qui, pour autant, n'adhèrent pas du tout avec les fonctionnements des actes aussi graves que ça. Mmh. Et que, finalement, il y a des gens responsables qui savent, qui savaient, qui ont su à plusieurs, et qui avaient, qui ont, en l'occurrence, menti, qui nous ont annoncé des dates, et puis après une autre, puis après encore une autre. Aujourd'hui, on sait que Barbarin, vraisemblablement, était au courant depuis 2002, selon Isabelle de Golemin, son enquête. Donc voilà, c'est moralement complètement dingue. Enfin, je veux dire, on ne peut pas continuer à vivre dans cette société en harmonie.
Suite à la plainte, d'ailleurs, bon, qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, on sait que Mgr Barbarin a fait des allers-retours au Vatican, notamment, a rencontré des membres de la Congrégation de la foi. Bon, je ne sais pas, dans les bagages, je ne sais pas exactement, mais on a beaucoup dit que Barbarin s'est précipité à Rome à un moment où peut-être a été convoqué par rapport à cette affaire. Peut-être qu'ils ont... entre eux, à leur manière, comme l'Église catholique sait le pratiquer, on le sait, puis on le voit encore aujourd'hui, entre eux, essayer de fomenter une stratégie pour protéger, peut-être encore une fois, l'institution catholique.
Je sais pas, je sais pas.
Je crois qu'on n'était pas dans les... Non, on sait que Barbarin s'est rendu à Rome, ça c'est sûr.
J'en sais pas plus que ce que vous savez, c'est qu'en effet, Barbarin est allé à Rome, il a été reçu par le pape directement,
et à
la suite de ça, le pape a déclaré dans la presse qu'il a trouvé que c'était un homme créatif, courageux et je sais plus quoi.
Ouais.
Bon, quelques jours après ça, quand même, il a mis en place un motu proprio pour écarter... les évêques qui ont été négligents sur ces affaires de pédophilie. Un motu proprio, je suis pas très calé, mais c'est voilà, en gros, ça lui permet de retirer un évêque irresponsable, qui juge irresponsable, et de manière, je crois, assez rapide.
Ouais.
Si j'ai bien compris, c'est à peu près ça. Bon, c'est applicable à partir de septembre. Voilà, est-ce que c'est un effet d'annonce ? Voilà, maintenant qu'on sait tout, maintenant que Barbarin a avoué ça, maintenant que le pape a dit lui-même qu'il attendait le résultat de l'enquête judiciaire sur la non-dénonciation pour décider de ce qu'il allait faire par rapport à ça. C'est ce qu'il a dit quand il a dit qu'il a trouvé le cardinal Barbarin très créatif et courageux, etc. Bon, il se trouve qu'on est dans un pays où la non-dénonciation est un délit prescriptible au bout de 3 ans. Il se trouve que c'est en France où on a une justice qui est à peu près fiable. Mais voilà, moi j'ai vécu un peu en Afrique noire, si vous voulez. Au Nigeria, par exemple, ça peut s'arranger différemment, quoi, ce genre de choses. Donc si au Nigeria il est condamné par la justice, ça veut dire que le pape prend ses responsabilités. Enfin, il doit avoir une vue transversale, il doit avoir une vision morale des choses, au-delà de la justice et des... Voilà. Il doit prendre position par rapport à ces choses-là. Et donc, voilà, est-ce que c'est un effet d'annonce, ce motu proprio, ou est-ce qu'il nous semblait très apparent qu'il ait une vraie détermination là-dessus. Nous, on lui a envoyé une demande d'audience. Voilà, on a appris il y a 15 jours qu'il a reçu un labrador qui a sauvé une petite fille suite à un séisme. Et nous, on n'a pas eu de réponse pour ces affaires de pédophilie qui sont en train d'éclabousser l'Église du monde entier. Mais attendez, mais il y a un problème là. On est des êtres humains, on est censé être intelligents, donc faut se poser les bonnes questions, quoi.
Alors, c'est le procureur de la République qui a donc statué sur la plainte.
Sur une enquête préliminaire, là aussi.
Oui, alors, parce que le procureur de la République, en fait, je m'adresse donc à l'avocate Lorbrette, a déclaré en fait la plainte non recevable. Est-ce que c'est exact ?
En ce qui concerne
la plainte pour non-dénonciation, non-assistance en personne en danger.
Oui, il me semble.
Ouais.
Ouais.
Et pour vous, alors, ça a été un choc, non ? Ou comment vous l'avez pris, ça,
C'est-à-dire qu'il y a juste sur le process, il y a un dépôt de plainte. Il y a un dépôt de plainte qui arrive au procureur.
Ouais.
Le procureur décide s'il est recevable, s'il considère que...
Il décide alors, tout seul, ça.
Alors, il faut... C'est pas vraiment une question de recevabilité. Là, le procureur, si vous voulez, en droit français, il a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est lui qui va décider si il considère qu'il y a matière à saisir un tribunal ou pas. Il le fait sur un plan juridique et aussi sur un plan d'opportunité en fonction des politiques pénales, etc. Par contre, c'est vrai que s'il craint l'existence d'une prescription qui est quand même un obstacle à juger quelqu'un, et ça, la prescription est une cause d'irrecevabilité de l'action, il ne va pas saisir un tribunal. D'autres personnes peuvent avoir l'opportunité de l'action publique, et notamment les victimes, par des processus de citation directe, etc. Mais quand on se heurte à un mur aussi fort qu'une prescription, on ne va pas saisir un tribunal, parce qu'on sait très bien que de toute façon, on sera irrecevable. Donc, on peut prendre un raccourci en disant que le procureur a déclaré la plainte irrecevable. Juridiquement, ce n'est pas tout à fait... ça, mais s'il a considéré qu'il y avait une prescription, c'est vrai que on peut penser, là en l'occurrence, on est sur un délit qui a 3 ans de prescription. Alors ça dépend des faits, quand il a su, et des preuves, toujours pareil. Mais si c'est 2002, effectivement, on est en 2015, 2016, c'est trop tard. Et il y a un autre problème qui s'est aussi beaucoup posé par rapport à Monseigneur Barbarin, c'est la question de ce secret professionnel, entre guillemets, le secret de la confession. En droit français, on ne sait pas trop encore ce que c'est, et on n'a pas de texte clair qui nous dit que ce n'est pas un secret professionnel.
Dans un état laïque, c'est quand même surprenant.
Dans un état laïque.
D'accord. Alors vous, quand vous avez appris la décision du procureur, vous attendiez...
Partiellement laïque.
Mais officiellement, normalement, l'Église...
C'est l'Alsace qu'on salue bien fort, mais voilà, on est dans un pays partiellement
laïque. C'est vrai.
Mais est-ce que, par exemple, la décision du procureur de la République peut avoir été sous influence aussi, quelque part?
Moi, tout est possible. Ouais.
C'est le représentant de l'État, le procureur de la République, on est d'accord?
Oui, bien sûr.
Non, je ne peux pas croire que... Ouais. Mais c'est très difficile de répondre à ces questions. C'est sûr que, on touche le procureur, on touche le cardinal Barbarin, on touche Gérard Collomb qui soutient Barbarin. Bon, on a touché les 3 plus grosses têtes de Lyon. Après, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, Soulier qui revendique sa franc-maçonnerie, tout ça, je sais pas, mais je crois que, en tout cas, le procureur de la République de Lyon est reconnu pour son impartialité.
D'accord.
Et je crois que c'est vraiment une référence dans la justice. Donc je crois qu'il a eu une lecture, mais il a eu une lecture judiciaire des choses. Ouais. Nous, on est dans un combat moral, on est dans un combat de prise de conscience. Mmh. Et on a un enquêteur judiciaire qui a partagé ce combat de prise de conscience et qui est allé sur ordre, mais qui a fait les choses à fond. Mmh. On a des médias qui ont fait les choses à fond. On a des fidèles aujourd'hui de cette Église qui prennent conscience et qui font les choses à fond aussi. Et finalement, il y a la parole se libère, pour reprendre ce thème. Mais donc ça, cette démarche, elle est commune, elle est dans un but de prise de conscience et un but d'épanouissement de notre société et de vie en société dans un climat serein. Le procureur restait sur sa mission, qui est purement une mission judiciaire. Et lui estime qu'il n'y a pas de loi applicable dans le secret judiciaire. Moi, je l'interprète comme ça, et je pense qu'il aurait pris moins de risques à nommer un juge d'instruction sur cette affaire, parce que dès lors qu'il nomme un juge d'instruction, il se sort, je crois, un peu de l'instruction, en tout cas.
Oui, disons qu'après, l'enquête, ça s'appelle une instruction, et c'est mené par le juge d'instruction, qui est indépendant, donc qui n'a pas d'ordre à recevoir du parquet, donc du procureur... qui, effectivement, dirige l'enquête avec beaucoup de moyens.
Mais là, dans ce dossier, on se retrouve, finalement, les gens ne savent plus, parce que le cardinal Barbarin a dit dans le dossier que, finalement, il était au courant depuis 2007. Puis, finalement, ce n'est pas 2007, mais ce serait plutôt 2005. Ouais. Et puis, 2 mois après, on apprend dans un bouquin, suite à une enquête, une enquête journalistique, que, finalement, ce n'est pas 2005, mais c'est 2002. Mmh. Donc, finalement, on a une déposition dans laquelle un cardinal a menti. Donc, à partir de là, quelle conclusion on tire là-dessus?
Alors, quand vous avez appris la nouvelle, vous y attendiez, donc vous avez les bras vous sont tombés, et vous êtes senti complètement anéanti. Enfin, je ne parle pas pour vous personnellement, mais pour les témoignages que vous pouvez avoir recueillis de la part des membres de l'association, par exemple.
On vit quand même depuis quelques mois des choses particulières qu'on n'avait pas l'habitude de vivre. On a pris un tampon quand même, faut dire les choses comme elles sont.
Ouais.
Donc on essaye de prendre les choses le plus sereinement possible, et on fait les choses dans notre âme et conscience. Donc on a été déçus, parce que il y a encore une fois si le procureur avait décidé d'instruire, on aurait pu acter les choses, même si ça se solde par un non-lieu. Encore une fois, le but n'est pas la condamnation, mais le but est de savoir quels sont les tenants aboutissants,
la manifestation de la vérité,
où sont les vérités là-dedans. Et de ces vérités là c'est comme dans un diagnostic médical. Si on fait pas le diagnostic complet, si on passe pas toutes ces analyses, etc., pour savoir d'où vient le mal, jamais on le traite. Et que là, finalement, encore une fois, on avait la possibilité de bien cerner les choses, parce que c'est pas venu naturellement, donc il a fallu passer par la justice pour le faire. Et donc, finalement, on va pas pouvoir appliquer le diagnostic qui s'impose. Or, on avait quand même une fenêtre là, du fait qu'on ait un cas d'école quand même, Prena, du fait qu'on a un Alexandre qui a mis en place, qui a fait des démarches sans aucune malveillance auprès du cardinal Barbarin, etc., qui s'est confronté à un système aberrant, et tout ça est allé très très vite. Et dans ces affaires-là, vous parliez de la Belgique tout à l'heure.
L'Irlande.
La Belgique.
La Belgique aussi.
Il y a l'Allemagne aussi.
Tous les pays ont été touchés.
Il y a la Pologne.
Les pays d'Amérique latine, les États-Unis, on pourrait en citer beaucoup.
Bref. Et que finalement, à chaque fois dans ces affaires-là, l'institution, l'Église, joue soit sur le temporel, soit sur le spirituel. Et que finalement, les affaires traînent en longueur en justice. Et puis à la fin, on fait un gros chèque aux victimes. Et puis là, on dit pardon. Hein, et puis, mais vous savez, maintenant, l'Église, elle a changé. Et puis on passe d'affaire en affaire. Et puis on voit comme cette affaire Barbarin, où finalement, on nous ressort exactement le même discours qu'on a ressorti au moment de l'affaire Piquant. On dit ça y est, on a tout compris. Et là, ils nous disent ah bon, mais c'est si mal que ça. Et ah bon, ils peuvent pas guérir ces gens-là. Et ah oui, il faut les retirer des contacts d'enfants. Voilà, c'est malheureux. Donc il y avait une opportunité de prise de conscience de la société qui pouvait être crédibilisée, qui était un des angles au travers de cette mise en examen. En tout cas, ça n'a pas été le choix du procureur. Il va falloir trouver d'autres axes pour qu'on aille au bout des choses. Isabelle de Golemin, dans son livre, participe beaucoup à ça. On va trouver d'autres axes, mais voilà, on a une détermination, je crois que pas mal ont pu le constater, et on va continuer. Donc,
au vu des déclarations récentes du pape François, est-ce que vous avez espoir quand même que les traditions séculaires de l'Église, de secret par exemple, ou de ce genre de choses, puisqu'on en est là en fait, hein, c'est une institution bimillénaire qui vit sur des préceptes qui parfois sont encore anciens, avec un fonctionnement fermé souvent, même s'ils parlent d'ouverture à la société, et dans le cadre de votre affaire, c'est ça en fait, à quelque part. Il y a une stratégie qui est formée au sein de l'Église pour... Certains diront protéger même ou mettre de côté ou mettre un couvercle sur ce genre de d'activité de certains membres du clergé. On ne va pas dire que tous les membres du clergé, évidemment, sont des pédophiles, mais sait que il y a quand même beaucoup d'affaires. Il y a une grosse minorité, certainement, qui existe au sein de l'Église. Et est-ce que vous pensez, vous, que le pape François, lui, a décidé d'enlever peut-être ce couvercle, peut-être ça va exploser un petit peu, que la cocotte minute, on va ouvrir le couvercle, quoi. L'Église va se réformer, enfin. On a l'impression qu'il est quand même un peu plus ouvert que ses prédécesseurs, le pape François.
Les impressions, en fait, il faut savoir les mettre de côté. Moi, je suis comme saint Thomas, vous voyez, je crois que ce que je vois. Ouais. Aujourd'hui, je vois des prêtres qui sont pédophiles, qui ne sont pas retirés, donc c'est-à-dire qu'ils sont toujours prêtres, c'est-à-dire qu'ils peuvent... potentiellement toujours officier. Je vois cette institution qui bouge pas, on reste toujours sur les mêmes fonctionnements. Non,
ils sont figés un petit peu.
Les paroles et il y a les axes. Ouais. Donc, j'étais convaincu en effet que le pape François allait prendre les mesures nécessaires et allait faire ce qu'il fallait. Et j'ai moi-même d'ailleurs contacté une bonne partie des cardinaux de France, ça c'était en mi-janvier, en leur disant. Attention, cette affaire va faire du bruit. J'essaye de joindre. Donc j'ai appelé les cardinaux de France, j'ai appelé le nonce apostolique, j'ai appelé la conférence des évêques, Monseigneur Pontier, et j'ai appelé 3 ou 4 fois le Vatican. Et il n'y en a pas un qui m'a pris au téléphone. Et à tous, je leur ai dit, faut passer le message en haut quand même, parce que nous, aujourd'hui, on n'entend pas trop parler de nous, mais ça va aller loin l'affaire. Et faut que vous compreniez que il y a une image de confiance envers l'institution qui va se perdre et que c'est pas votre jeu que de jouer la carte du silence et au contraire il faut se mobiliser là-dessus et encore une fois je pense qu'il y a une vraie opportunité pour l'Église en France là-dessus de redorer un peu son blason. C'est quand même une institution qui est en large perte de vitesse.
Voilà. Et puis c'est sûr que les affaires que nous évoquons, la façon dont l'Église la traite ne peut pas redorer le blason de l'Église, bien au contraire. C'est certain que l'image de l'Église en est sortie écornée pour longtemps, je pense. Sans remettre en question la foi, parce que je ne sais pas vous, mais les personnes, la foi et l'institution catholique sont deux choses différentes.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et beaucoup de gens qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus financièrement, qui ont adhéré à notre association, beaucoup sont croyants. Hein. Et en fait, beaucoup considèrent que... Que voilà, l'humain a en fait un peu détruit ce qui est aujourd'hui nos racines. Nous, Français, c'est notre culture, quoi. C'est le catholicisme, voilà, on est considéré comme la fille aînée de l'Église de France, c'est pas pour rien. La foi est un sujet qui est d'abord individuel et qui n'appartient qu'à chacun, enfin très individuellement, et que là on est plutôt sur un phénomène en fait où l'institution où les gens se regroupent et après quelques mois de concentration sur ce sujet, on se rend compte finalement qu'on a affaire à des fidèles qui sont d'une crédulité à faire peur, enfin, heureusement au moins maintenant, mais ça on a eu quand même des réactions assez hallucinantes. On a des prêtres à qui on a donné la parole en disant « Mais attendez, comment vous acceptez que vous avez un cardinal ?» On a révélé quand même beaucoup d'éléments factuels, de mails, de messages téléphoniques, aujourd'hui, on a 3 avocats, un qui est franc-mac, etc. On a une boîte de com' pour défendre le diocèse, des faits qui sont... C'est hallucinant, voilà. Donc, pourquoi ces prêtres-là se désolidarisent ? Ils se sont quand même mariés à Dieu, ces gens-là. Hein. Avant de se marier avec le cardinal, ils sont quand même mariés à Dieu. C'est un engagement personnel qui est moral, autre que ce qu'on connaît, nous, pauvres païens. Ouais. Donc, ensuite, on a la hiérarchie qui ne dénonce pas. Et puis ensuite, on a un pape qui prône une tolérance zéro. Tout ça dans un dogme où, finalement, à la place de la femme est quand même assez particulière. On peut se poser la question quand même de... Avec une sexualité qu'on nie, l'être humain est quand même programmé pour se reproduire depuis qu'il est sur Terre, et on sait tous qu'aujourd'hui, l'équilibre sexuel, c'est quand même fait partie des équilibres un peu clés de l'être humain, et que c'est des sujets qu'on ne peut pas nier comme ça. Ouais, ouais. Alors, sans dire que ça découle forcément...
Que peu atteignent à cet idéal absolu où le corps disparaît pour laisser place qu'à l'esprit, on dira, c'est un peu ce qui... Ouais. La 16 chrétienne, c'est ça, à la base. On oublie le corps pour élever son esprit vers Dieu, mais ce sont des hommes...
Et tout ça n'est pas à l'origine, et tout ça n'a rien à voir avec la croyance.
Puis l'institution catholique, dans son histoire, on connaît l'histoire de l'institution catholique. Il y a des papes qui ont eu des enfants, il y a des papes qui vivent avec des maîtresses, des concubines. Bon, c'est des époques un peu originales, comme on dit, la Renaissance, etc. Mais ça existe. Il y a eu des hommes de religion qui ont fait la guerre, par exemple. Je veux dire, alors que ça paraît antinomique par rapport à la parole du Christ, etc. On sait que l'institution catholique est une institution politique aussi, une institution faite d'hommes, effectivement, où la place de la femme peut être effectivement considérée comme un petit peu marginale, même si il y a des moniales quand même, et puis des...
Ça progresse, mais...
Oui, ça progresse, mais difficilement. Voilà. Alors, je dirais, par exemple, les affaires de pédophilie, par exemple, l'Église a souvent réagi en disant « on est attaqué », par exemple, parce que c'est comme si les attaques venaient de l'extérieur, on nous accuse, nous, de faire des choses qui ne sont pas conformes, etc. C'est souvent aussi une défense, on attaque l'institution.
Ouais, mais ça, c'est des trucs qui...
Mais ça, c'est une défense qu'ils ont. Hein. Il y a des prêtres en chair qui l'ont dit, je l'ai entendu.
Oui, mais faut arrêter de donner
On attaque l'Église, nous sommes attaqués. Voilà. Alors, par contre, je dirais que pour ce qui concerne... Alors, les affaires de pédophilie ne concernent pas que l'Église, malheureusement, je dirais. Par contre, l'école publique, par exemple, qui est aussi touchée par des affaires de pédophilie, il ne faut pas l'oublier. Au moins, on dira que la réactivité est beaucoup plus importante. Les affaires sont dénoncées depuis plus longtemps, au moins depuis les années 60.
Exactement. La problématique aujourd'hui que l'institution scolaire rencontre, c'est plus un dysfonctionnement en fait, d'information entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Justice. Ouais. Donc là, on est dans un cas différent.
C'est différent.
En fait, où il y a des gens qui viennent dire au ministre de l'Éducation, je me suis fait tripoter par un prêtre, par un professeur.
Par un instituteur ou un professeur.
Voilà, et qui décide, lui, de le replacer. Alors, il y a eu des cas. Simplement, je crois que les instituteurs, c'est 3 millions en France. Les prêtres, je crois qu'on n'atteint pas 45 000.
Ouais.
Donc, et on est sur des pourcentages qui sont équivalents. Mmh. Donc, en termes de nombre de... C'est pas exactement...
Malheureusement, il va falloir nous quitter. L'émission touche à sa fin. Vous avez signalé le livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil d'Isabelle de Golemin. Très intéressant parce que c'est la rédactrice en chef adjointe du journal La Croix, qui est donc un journal catholique, et qui donc a publié un livre, premier livre sur cette affaire donc, de pédophilie dans le diocèse de Lyon. L'affaire qui concerne la parole libérée. Voilà, c'est intéressant à noter parce que c'est un livre qui fera date, je pense, peut-être.
On espère, oui, je crois que ça va marquer les esprits. Ouais.
Voilà. Récemment, encore un dominicain, d'ailleurs, du diocèse de Lyon, qui était moine au couvent de la Tourette, s'est donné la mort après avoir reconnu des faits. Il a été accusé de pédophilie,
ouais.
Et il a reconnu les faits et il s'est donné la mort. Comme quoi, cette affaire continue à émerger, à surgir, et on n'a pas fini, à savoir effectivement l'évolution de l'Église à ce sujet, apparemment lente.
Un peu, ouais.
Un peu trop lente.
Ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, s'ils cherchent une solution, ils peuvent nous appeler, on est disponible, on devrait les trouver assez
ce qui n'est pas
vite.
Dans son intérêt, finalement. Hein,
non.
Parce que là, ils se décrédibilisent de plus en plus, c'est certain.
Non, au contraire, je pense qu'ils avaient une vraie opportunité.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.